France Culture.
Vazak, bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Donald Trump intensifie sa guerre commerciale contre le Canada, nouvelle surtaxe sur l'acier et l'aluminium et nouveaux propos menaçants sur l'indépendance canadienne contestée par le président américain. Les explications de Sébastien Paour dans un instant. L'Ukraine négocie avec les États-Unis la fin de l'invasion russe. Les discussions ont commencé en Arabie Saoudite quelques heures après une attaque massive de drones ukrainiens sur la Russie. Kiev ne veut pas la paix, affirme Moscou, où nous retrouverons notre correspondant Sylvain Tronchet. L'ancien président philippin Rodrigo Duterte, arrêté à la demande de la Cour pénale internationale, la CPI qui veut le juger pour crime contre l'humanité après sa guerre sanglante contre les trafiquants de drogue dans son pays. En France, la justice reconnaît en appel un préjudice d'anxiété pour les victimes du chlordécone aux Antilles, une décision qui ne concerne qu'une dizaine de requérants. Donald Trump a lancé aujourd'hui une nouvelle salve d'attaques commerciales contre le Canada. Dès demain, l'acier et l'aluminium canadiens seront surtaxés deux fois plus que ce que le président américain avait envisagé dans un premier temps, une riposte à la province canadienne de l'Ontario. Sur son réseau Truth Social, Donald Trump a aussi une nouvelle fois répété sa volonté d'annexer le Canada. Sébastien Paour nous appelle de Washington.
Trump annonce que les droits de douane sur l'acier et l'alu canadien qui entrent en vigueur demain ne seront pas de 25 mais de 50%. Il explique qu'il répond aux surtaxes imposées par l'Ontario sur l'électricité que la province fournit à certains États américains. Mesure canadienne elle-même décidée après les droits de douane imposés la semaine dernière au Canada et que Trump a ensuite suspendu pour moitié. Le président américain demande également à son voisin d'abandonner les différents droits de douane mis en place sur les produits laitiers et agricoles américains. Si ces droits ne sont pas supprimés, écrit-il, j'augmenterai considérablement les droits de douane sur les voitures canadiennes qui entrent aux États-Unis le 2 avril, ce qui entraînera, pour ainsi dire, d'après lui, la fermeture permanente de l'industrie automobile au Canada. Bras de fer décidément tendu donc entre Washington et Ottawa et qui ne peut se terminer que d'une seule manière d'après Trump. La seule chose censée à faire pour le Canada, écrit-il, est de devenir le 51e État américain.
Sébastien Paour, correspondant aux États-Unis. Sur le conflit ukrainien, l'heure est plutôt à l'apaisement entre Kiev et Washington. Les deux parties ont entamé des négociations aujourd'hui en Arabie Saoudite. Les États-Unis veulent aboutir à une fin rapide de la guerre, quitte à entériner certaines conquêtes territoriales russes. L'Ukraine propose un cessez-le-feu partiel à la Russie, une trêve aérienne et maritime dans un premier temps. C'est dans cet état d'esprit que les discussions ont commencé aujourd'hui à Djeddah. On fait le point avec Christian Chéneau de la rédaction internationale de Radio France.
Le chef des négociateurs ukrainiens a qualifié ce début de rencontre de constructif. Les pourparlers se déroulent normalement, a-t-il ajouté. La première session des discussions a duré 3 heures et elles ont repris dans l'après-midi. Kiev n'arrive pas les mains vides à la table des négociations. Nous sommes prêts à tout faire pour parvenir à la paix, a fait savoir le chef du bureau du président Volodymyr Zelensky avant d'entrer dans la salle de réunion. Les Ukrainiens proposent une trêve dans les airs et en mer, c'est-à-dire l'arrêt des frappes de missiles et des hostilités en mer Noire, en espérant que cette offre de cessez-le-feu partiel convaincra les Américains. En soi, la présence des négociateurs ukrainiens à Djeddah est déjà une petite victoire. Ils sont assis à la table des négociations, ce qui n'était pas une évidence il y a seulement quelques semaines. Ils vont essayer de maintenir leur ligne rouge, c'est-à-dire ne pas acter les gains territoriaux russes avec un atout dans leur manche, l'accord sur les minerais que Kiev se dit prêt à signer avec les Américains.
Christian Chéneau, merci. Quelques heures avant l'ouverture de ces discussions en Arabie Saoudite, l'Ukraine a donc lancé une attaque massive de drones sur le territoire russe, la plus importante depuis le début de la guerre. Selon les derniers bilans, il y a au moins 8 morts, 3 dans la région de Moscou et 5 dans celle de Koursk près de la frontière ukrainienne. Bonsoir Sylvain Tronchet.
Bonsoir Stanislas.
En direct de Moscou, Sylvain, pour le Kremlin, cette attaque de drones prouve que l'Ukraine n'a pas l'intention d'arrêter la guerre.
Oui, alors officiellement, ce qu'on dit à Moscou ce soir, c'est qu'on n'a aucune information sur les discussions en cours et d'une façon générale, Moscou se garde bien d'émettre des opinions sur les discussions entre Américains et Ukrainiens, même lorsqu'elles semblent tourner à son avantage, comme il y a quelques jours dans le bureau ovale. Mais en revanche, effectivement, le ton est particulièrement agressif à Moscou ce soir. L'attaque massive de drones sur la Russie de la nuit dernière est la preuve que Kiev ne veut pas la paix, a dit Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères. Pour le porte-parole du Kremlin, ces actes démontrent une nouvelle fois Le caractère nazi du régime de Kiev, Dmitri Peskov s'est offusqué que ces raids ukrainiens aient tué des victimes civiles, alors que l'armée russe, elle, affirme-t-il, ne vise que des cibles militaires, des affirmations qui ne résistent pas à l'épreuve des faits, mais qui permettent à Moscou de fermer une nouvelle fois la porte à toute concession pour l'instant. Sergueï Lavrov a par exemple redit cet après-midi son opposition à la présence de forces étrangères sur le territoire ukrainien pour garantir un éventuel accord de paix, et Moscou semble toujours aussi fermé à l'idée de discuter avec le pouvoir actuel aux commandes à Kiev. Il faudra probablement bien plus qu'un round de négociations pour arriver ne serait-ce qu'à un début de cessez-le-feu.
Sylvain Tronchet, correspondant de Radio France en direct de Moscou. En France, le Rassemblement national a bien du mal à éclaircir sa position sur la guerre en Ukraine. Marine Le Pen s'est longtemps montrée favorable à Vladimir Poutine au point de le rencontrer au Kremlin en 2017. Après l'invasion de l'Ukraine, elle a tenté de nuancer son tropisme pro-russe. Et depuis la réélection de Donald Trump, la patronne des députés RN semble embarrassée. Elle, qui a toujours revendiqué un rejet de l'atlantisme, voit le président américain se rapprocher de la Russie de Poutine. Bonsoir Antoine Maret.
Bonsoir Stanislas.
Jordan Bardella, qui se trouve pour une fois au Parlement européen, a tenté aujourd'hui de débroussailler le positionnement de son parti sur le conflit en Ukraine.
Jordan Bardella, qui s'en prend à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, responsable, selon lui, d'avoir délégué la sécurité des Européens aux États-Unis, leur industrie à la Chine et leur politique énergétique à la Russie. Face au conflit qui s'enlise en Ukraine et au désengagement américain, le président du RN appelle à la paix par la diplomatie.
L'organisation d'un sommet de la famille occidentale, idée formulée par la première ministre italienne Giorgia Meloni, devrait nous permettre de définir clairement nos objectifs pour la souveraineté de l'Ukraine, les exigences que nous devons mettre sur la table, les garanties de sécurité à offrir à ce pays allié afin qu'il ne subisse plus jamais les assauts de l'agresseur russe.
L'agresseur russe, ces mots semblent condamner sans ambiguïté le régime de Vladimir Poutine. Marine Le Pen confirme cet après-midi qu'elle soutient l'Ukraine. Un petit oui avec un gros mais.
S'il s'agit de soutenir l'Ukraine, de lui livrer des armes pour continuer à faire une guerre qui fait des centaines de milliers de jeunes gens blessés, tués, déplacés, réfugiés, sans en voir le bout, en réalité, on participe à un véritable massacre. S'il s'agit d'aider l'Ukraine à arriver dans les meilleures conditions possibles, en position de force, c'est un peu difficile au bout de 3 ans de dire ça, mais en position de moindre faiblesse dans les négociations qui s'ouvrent avec la Russie, nous sommes d'accord, nous l'avons toujours été.
Permettre à l'Ukraine d'être en position de force face à la Russie, mais sans l'aider militairement, voilà ce que propose Marine Le Pen. La nature de ce que pourrait être cette aide non militaire reste pour l'heure un mystère.
Décryptage signé Antoine Maret. La Commission européenne a présenté cet après-midi aux eurodéputés réunis en session plénière à Strasbourg de nouvelles mesures pour faciliter le renvoi des migrants illégaux. L'une d'elles fait polémique, la possibilité pour les États membres de renvoyer à l'extérieur de leurs frontières, dans des pays tiers, les étrangers en attente d'expulsion. C'était une demande de plusieurs pays, les plus à droite au sein des 27, qui ont eux-mêmes déjà expérimenté ce genre de procédure. Les explications de Fabien Cazot.
Après le Royaume-Uni qui avait envisagé un temps d'envoyer ses demandeurs d'asile au Rwanda, l'Italie a été le premier État membre de l'Union à financer l'année dernière la création d'un centre de traitement des demandes d'asile dans un pays tiers, en l'occurrence l'Albanie. La version proposée aujourd'hui par le commissaire européen chargé des migrations, Magnus Brunner, s'en inspire mais se veut plus restrictive.
Cela concernera les personnes qui ont déjà une décision de retour. Nous créons cette possibilité pour les États membres, mais c'est un système totalement différent des précédents, qui n'a rien à voir avec ce que les Britanniques ont voulu faire au Rwanda ou les Italiens en Albanie.
Pas de quoi rassurer la gauche au Parlement européen. L'écologiste Damien Carême, ancien maire de Grande-Synthe, qui a accueilli d'importants camps de migrants dans le Nord, dénonce une victoire idéologique de l'extrême droite.
Ces dernières semaines, les responsables européens brandissent à l'envi les valeurs européennes face à un Trump qui, lui, les piétinerait. Mais de quelles valeurs européennes parlons-nous ? De la sous-traitance de nos obligations humaines et juridiques à des pays tiers que l'on qualifiera de sûrs au gré de nos propres intérêts ? La politique européenne en matière d'asile n'a vraiment rien à envier au délire d'expulsion massive de Donald Trump.
Pour l'heure, en Europe, selon les chiffres de la Commission, seuls 20% des décisions d'expulsion sont effectivement appliquées.
Fabien Cazot, depuis le Parlement européen, réuni cette semaine à Strasbourg. C'est un véritable séisme politique aux Philippines. L'ancien président Rodrigo Duterte a été arrêté ce matin à l'aéroport de Manille. À peine sorti de son avion en provenance de Hong Kong, il a été placé en détention. Son arrestation s'inscrit dans le cadre d'un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale. Elle le soupçonne de crimes contre l'humanité après des années d'enquête sur la guerre sanglante contre la drogue qu'il a menée dans son pays. Une guerre qui a fait plus de 10 000 morts selon la Cour. Rodrigo Duterte est actuellement dans l'avion qui doit l'amener à La Haye, aux Pays-Bas, où siège la CPI. Aux Philippines, son arrestation fait débat. Le reportage à Manille de Nemo Lecoq-Jam.
C'est un jour de fête pour les victimes de la guerre contre la drogue et les défenseurs des droits humains aux Philippines. Après 9 années d'enquête, l'ancien président Rodrigo Duterte est rattrapé par la justice. Leila de Lima est une ancienne sénatrice et militante pour les droits de l'homme. Elle a été emprisonnée 7 ans sous le mandat de Duterte pour avoir dénoncé ses crimes.
Quand j'étais derrière les barreaux, des milliers de Philippins ont été tués sans justice. Duterte doit maintenant répondre de ses actions, pas devant un tribunal des opinions publiques, mais devant les règles de la loi. À ceux qui se sont battus pour ce long et difficile combat, vos voix comptent, votre courage compte.
L'ancien président s'est envolé il y a quelques heures vers La Haye, aux Pays-Bas, où il sera jugé par la Cour pénale internationale. Il est accusé de crimes contre l'humanité pour avoir ordonné de tuer de 2011 à 2016 des dizaines de milliers de Philippins au nom de sa guerre contre la drogue. Cette arrestation arrive dans un contexte politique particulier. Le pays s'apprête à voter pour les élections de mi-mandat et la famille Duterte est encore dans la course. Ici, il y a aussi des milliers de Philippins qui soutiennent l'ancien président. J'ai pu en rencontrer devant l'aéroport où il était détenu avant d'être extradé.
En fait, c'est le meilleur président.
Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi ?
Parce qu'il est capable de tuer des criminels.
En attendant son arrivée aux Pays-Bas, les partisans de Duterte comptent bien rester devant l'aéroport pour manifester leur soutien. Certains d'entre eux ont même allumé des bougies, je cite, « au nom de la paix ».
Nemo Lecoq-James, correspondante aux Philippines. Un incendie fait rage ce soir au large des côtes anglaises au lendemain de la collision entre un pétrolier affrété par l'armée américaine et un porte-conteneur. Un membre d'équipage du cargo est présumé mort. Il est toujours porté disparu. À ce stade, le gouvernement britannique exclut la piste criminelle, mais un homme a été arrêté pour homicide involontaire par négligence grave. L'incendie ne concerne que le porte-conteneur actuellement à la dérive. Mathieu Laurent, bonsoir.
Bonsoir.
Cette collision a eu lieu dans une zone extrêmement riche en biodiversité. Voilà qui laisse craindre une catastrophe environnementale. Même si, Mathieu, le propriétaire du cargo affirme que le navire ne transportait pas de cyanure de sodium, un gaz toxique.
Certes, mais il y a le fuel de propulsion. Environ 1000 litres de fuel lourd par navire. Un réel danger, tout comme le kérosène qui s'engouffre dans la brèche de la coque du tanker. Charlotte Nittard est présidente de l'association de défense de l'environnement, les Robins des Bois.
On sait aussi que c'est de la catégorie Jet A1 qui a des additifs visant à lutter contre l'électricité statique, qui sont des organophosphorés utilisés aussi en pesticides, et que dans les fiches de sécurité de ce carburant, il est clairement dit qu'il est toxique pour les organismes aquatiques et qu'il entraîne des effets néfastes sur le long terme.
Et nous sommes là à proximité du Humber, l'un des principaux estuaires d'Angleterre, où l'on a dénombré jusqu'à 140 000 oiseaux. Charlotte Nittard.
Vous avez beaucoup d'oiseaux qui viennent d'Arctique et de Subarctique pour hiverner, pour se nourrir, parce que c'est une zone qui est extrêmement riche, à la fois en petits vers, en crustacés, en poissons. Et donc, parmi ces oiseaux, vous en avez des protégés, comme les chevaliers gambettes, les combattants variés, ou bien des avocettes. Et puis, plus au nord, vous avez aussi des forêts de laminaires, dont on connaît l'importance pour les écosystèmes, en termes de forêts sous-marines, finalement d'abris pour tout un tas d'espèces, de nourrisseries, de zones aussi d'éclosion pour les poissons. Et bon, il y a la phase aiguë où il y a une toxicité immédiate, une contamination, une intoxication immédiate, mais vous avez aussi des effets sur le moyen et le long terme. Et il va falloir qu'il y ait un suivi Et pour ça, il faut aussi une volonté.
Également sous la loupe, non loin de cette collision entre ces deux navires marchands, l'une des plus importantes colonies de phoques blancs d'Angleterre.
Merci Mathieu Laurent. Le pape va mieux, il pourrait même quitter l'hôpital Gemelli à Rome dans les prochains jours. Selon le dernier bulletin de santé publié par le Vatican, les améliorations enregistrées les jours précédents se sont consolidées. Hospitalisé pour une pneumonie bilatérale, le pape François a bien réagi au traitement médicamenteux. Il a pu prier aujourd'hui dans la petite chapelle aménagée dans l'appartement qu'il occupe à l'hôpital Gemelli. C'est un nouveau rebondissement judiciaire dans le dossier du chlordécone, ce pesticide qui a massivement pollué les sols et les cours d'eau en Guadeloupe et en Martinique. L'État doit indemniser une partie des victimes au nom du préjudice moral d'anxiété. Décision rendue aujourd'hui par la Cour administrative d'appel de Paris. Bonsoir Florence Turme.
Bonsoir.
Sur 1300 requérants, la Cour a donné raison à une dizaine d'entre eux.
L'État doit indemniser les victimes qui démontrent un préjudice moral d'anxiété, estime la Cour administrative d'appel de Paris. Le préjudice d'anxiété, c'est un concept juridique, le sentiment d'inquiétude permanente généré par le fait d'avoir été exposé à une substance nocive. La Cour reprend les arguments développés par la rapporteure publique lors de l'audience. Oui, l'État a commis des fautes caractérisées. Il a renouvelé à plusieurs reprises les autorisations de vente provisoire du chlordécone, autorisé son usage à titre dérogatoire uniquement en Guadeloupe et en Martinique jusqu'en 1993, l'État qui a ensuite tardé à prendre des mesures permettant d'éliminer les stocks après l'interdiction formulée. La Cour relève également qu'en l'état actuel des connaissances, l'exposition au chlordécone est associée notamment à un risque augmenté de développer un cancer de la prostate et à un risque accru de naissance prématurée. En cela, l'avocat des associations et des personnes concernées parle d'une victoire qui crée un précédent pour les autres dossiers de pollution environnementale. Toutes les victimes, en premier lieu les ouvrières et les ouvriers des bananeraies, pourront obtenir réparation de leur préjudice corporel, indique Christophe Legvac. Une victoire en demi-teinte toutefois, car dans les faits, la Cour condamne l'État à indemniser seulement une dizaine de personnes, celles qui ont apporté des éléments nouveaux depuis le premier jugement, ceux qui ont fourni des preuves, par exemple des dosages sanguins corroborés par des analyses de sol pour établir un risque élevé de développer une pathologie grave. Et à ce stade, plus de 1200 personnes ne peuvent toujours prétendre à cette indemnisation.
Explication signée Florence Turme. L'aéroport de Beauvais dans le collimateur des défenseurs de l'environnement. Trois associations, Notre Affaire à Tous, Sauver le Beauvaisis et l'ADERA qui regroupe des riverains, ont déposé un recours devant le tribunal administratif d'Amiens. Elles demandent l'annulation du contrat de concession de l'aéroport, contrat attribué à la société Bellova, où l'on trouve notamment Bouygues Construction. Bellova veut agrandir l'aéroport de Beauvais. Objectif, 9 millions de passagers contre 6 millions l'an dernier. Bonsoir Véronique Robérotte.
Bonsoir.
Les associations dénoncent un projet en contradiction avec les objectifs climatiques de la France.
Oui, les trois ONG dénoncent une incohérence entre le développement de l'aéroport de Beauvais et les engagements climatiques de la France pris dans le cadre de l'accord de Paris en 2015. Les ONG soulignent que la France est engagée au minimum à une stagnation du transport aérien pour espérer pouvoir respecter son engagement de réduire de 55% ses émissions de gaz à effet de serre en 2030. Or, de stagnation, il n'y a pas. Au contraire, les prévisions dans le secteur aérien pour 2030 montrent que les émissions du secteur seront en hausse, plus encore avec l'extension de Beauvais, de fait le troisième aéroport de Paris, celui qui peut encore se développer, Roissy et Orly, étant déjà saturés ou plafonnés. À Beauvais, aucun plafonnement n'est a priori prévu. Au terme du nouveau contrat de concession, en 2054, 9,4 millions de passagers transiteraient par l'aéroport contre 6,5 millions aujourd'hui. Et vous l'avez dit Stanislas, seulement 64 000 passagers en 1996. Impressionnante augmentation du trafic depuis l'arrivée en 1997 des compagnies low cost à Beauvais, notamment Ryanair. Quelques dizaines d'euros pour aller passer un week-end en Europe. Récemment, la compagnie irlandaise est entrée dans le top 10 des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre de l'Union européenne. pour les associations que requérantes. Il est clair que l'extension de l'aéroport de Beauvais est bien plus qu'un problème local avec une pollution de l'air ou une pollution sonore accrue, mais bien le révélateur d'un échec persistant dans la lutte contre le changement climatique.
Véronique Robérotte, spécialiste environnement à la rédaction de France Culture. Cette dernière information dans le drame d'Evaël, la procureure a requis tout à l'heure 18 mois de prison avec sursis à l'encontre de l'enseignante d'Evaël, jugée pour harcèlement moral sur mineur. La cour qui considère qu'elle a jeté en pâture l'adolescente qui a fini par se suicider à 11 ans en 2019. L'enseignante est accusée d'avoir humilié, stigmatisé et isolé Evaël. Nous y reviendrons dans notre journal de 19h. Un mot du temps, demain il restera faiblement pluvieux sur de nombreuses régions, du sud-ouest au Grand Est. Il neigera en montagne au-dessus de 1300 mètres. Ailleurs, le ciel restera instable. Demain matin, il fera entre 1 et 12 degrés du nord à la Méditerranée. Les températures maximales iront de 9 à 19 degrés. C'est la fin de ce journal.